Ailleurs que sur la Terre, la probabilité de trouver de la vie est extrêmement réduite.
L'association lausérienne pour l'étude et la protection de l'environnement.
Ouvrez grand les yeux, vous allez découvrir l'effet sans doute le plus immédiat des changements climatiques.
48 FM vous présente les chroniques de l'Allée.
Une telle profusion et variété de vie que l'on appelle aujourd'hui la biodiversité.
Muriel Duguay, les chroniques de l'Allée.
Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle chronique de l'ALEP. Je suis avec Muriel Duguay. Bonjour Muriel.
Bonjour Corentin.
Alors aujourd'hui, on va parler de l'air.
Exactement, on va parler de qualité de l'air puisque suite à notre émission sur la mobilité, on parlait de qualité de l'air et le mercredi dernier, c'était la journée nationale de la qualité de l'air.
Et alors pour commencer, on va se poser la première question qui est toute simple. Qu'est-ce que c'est l'air ?
Et oui, finalement on en parle mais on ne sait pas forcément de quoi c'est fait. En fait, l'air qu'on respire tous les jours est constitué à 99% d'azote et d'oxygène, à 0,9% d'argon et après à d'autres gaz sont présents à l'état de trace. Et en fait, depuis 1996, on a établi une loi sur l'air qui s'appelle la loi LAURE et qui établit le droit à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Et pourquoi, en fait, ça nuirait à notre santé ?
Eh bien, en fait, l'état original de l'air peut être perturbé par la présence de composés chimiques supplémentaires sous la forme de gaz ou de particules et en des proportions qui varient, mais qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Donc c'est ça, en fait, qu'on appelle la pollution atmosphérique.
Mais cette pollution, ça a commencé quand ?
Eh bien, en fait, on peut imaginer que ça a commencé à l'ère industrielle. Il n'y a pas forcément de date précise, mais en tout cas, la prise de conscience, elle a commencé lors d'un épisode de pollution extraordinaire qui a frappé Londres en 1952, qu'on appelait The Big Smoke, parce qu'en fait, il y avait un brouillard provoqué par les fumées des industries et des logements privatifs qui étaient chauffés au charbon. Et donc, c'était un énorme brouillard qui s'était répandu sur toute la ville et qui a été maintenu en fait par des conditions météo assez exceptionnelles, froides et stables. Et ça a été maintenu plusieurs jours et ça a provoqué le décès de 4000 personnes. Donc c'est la plus grosse catastrophe sanitaire due à la pollution atmosphérique, en dehors des accidents ponctuels.
C'est vraiment là, du coup, qu'on en a pris conscience.
Ouais, voilà. Donc c'est là qu'on s'est réveillé, qu'on s'est posé des questions et qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose.
Oui, parce qu'a priori, ça venait du coup... De l'activité humaine.
Voilà, c'est ça. Alors, il peut y avoir, des gaz peuvent être émis par des phénomènes naturels, par le rejet, par la végétation ou le sel dans les mers. Mais il y a pas mal de pollutions atmosphériques qui sont liées quand même aux activités humaines, notamment par rapport à nos activités industrielles, transport routier, chauffage individuel, etc. Après, ces polluants sont maintenus ou pas en place par des conditions météorologiques qui, du coup, entraînent le transport de ces polluants et puis influencent, en fait, la chimie des polluants. Voilà. Et puis ensuite, les conditions de site, c'est-à-dire l'occupation du sol, le paysage, les bâtiments, influencent le fait que les polluants vont se disperser ou pas.
Et ces composés ne sont pas éliminés dans l'atmosphère, ils ne peuvent pas disparaître d'eux-mêmes ?
Bah en fait, chaque polluant a son propre temps de vie dans l'atmosphère. Ça dépend en général de sa réactivité chimique, de l'occupation du sol, du coup, et de la capacité de l'environnement à les capter. En fait, les polluants ayant des temps de résidence longs, comme l'ozone, sont susceptibles de se déplacer sur de très longues distances au gré des masses d'air. Et du coup, leur impact maximal est généralement localisé en dehors des zones d'émission, parce qu'ils se déplacent. Après, il y a d'autres polluants, tels que les oxydes d'azote, qui sont très réactifs, et leurs effets sont perceptibles près des zones d'émission. Voilà, donc en fait, il y a différents cas de figure. Et en gros, on fait la différence entre les polluants primaires, qui sont directement émis dans l'atmosphère, et les polluants secondaires, qui sont issus d'une chaîne de réaction.
D'accord, donc de nouveaux gaz peuvent se créer en fait dans l'atmosphère.
Voilà, en fait c'est ça la subtilité, c'est-à-dire qu'il y a des polluants qui interagissent entre eux dans l'atmosphère par un jeu de réactions chimiques très complexe. Donc en fait l'ozone, il n'est pas émis directement dans les basses couches de l'atmosphère. En fait il est créé parce qu'il résulte de réactions chimiques impliquant deux autres sortes de gaz qui sont eux émis par l'activité humaine, les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, les COV. Et en fait, ces réactions s'opèrent quand les conditions météorologiques sont favorables.
Et c'est le lien avec la couche d'ozone ?
Alors, c'est un peu différent. En fait, l'ozone de la basse atmosphère, qui affecte les écosystèmes et la santé humaine, il a un effet toxique. Il est à opposer au rôle de l'ozone stratosphérique, dont les concentrations importantes, en fait, en haute altitude, à plus de 10 km d'altitude, filtrent, en fait, une partie nocive des ultraviolets du rayonnement solaire. Donc, voilà, l'ozone stratosphérique est favorable. Par contre, l'ozone qui est émis, nous, par nos activités en basse atmosphère, est un gaz très agressif qui pénètre profondément dans l'appareil pulmonaire et qui peut réagir sur les composants cellulaires et affecter les capacités respiratoires.
Donc là, on parle de l'ozone, mais est-ce qu'il y a d'autres gaz problématiques ?
Ouais, alors on va... La liste serait un peu longue, mais en gros, il y a les oxydes d'azote qui sont des précurseurs de l'ozone, du coup, qui sont responsables aussi des phénomènes de pluie acide. Et ils sont principalement émis par le secteur routier. Après, donc, il y a les composés organiques volatiles, dont le méthane, qui n'est pas forcément nocif pour la santé humaine, mais qui est un gaz à effet de serre assez puissant. Ensuite, il y a le dioxyde de soufre, mais lui qui a pas mal diminué en matière d'émissions, puisqu'on a vraiment fait attention. Puis après, il y a le CO2 hein, qu'on connaît classiquement, les métaux lourds aussi, qui peuvent être émis par le secteur industriel, et puis l'ammoniac, qui est plutôt émis, lui, par le secteur agricole.
Et aujourd'hui, il existe des endroits plus touchés que d'autres ?
On parle souvent de la Chine, on entend souvent parler des pollutions en Chine. Alors en fait, on se rend compte que les manifestations de lutte contre la pollution deviennent de plus en plus importantes en Chine. En gros, par an, il y aurait entre 75 000 et 180 000 manifestations environnementales d'au moins une centaine de personnes en Chine. Donc pour un pays totalitaire qui n'est pas forcément pour la liberté d'expression et le droit à la manifestation, ça interpelle.
Oui, et comment ça se fait en fait ? C'est parce qu'ils sont extrêmement nombreux en Chine ou c'est parce qu'il n'y a vraiment aucun contrôle qui est fait sur la population chez eux ?
Au niveau de la qualité de l'air ?
Ouais, comment ça se fait que ce soit pire là-bas ?
C'est pire là-bas parce qu'il y a énormément de centrales à charbon, que le gouvernement n'est pas dans une optique de réduction et de maintien de la qualité de l'air, c'est que il y a encore une centaine, je crois 150 permis de création de centrales à charbon qui sont passés en Chine. Donc voilà, il n'y a pas de mesures faites pour protéger la population en Chine par rapport à ces questions-là.
Et ça, ces mesures, c'est celles qui vont arriver.
Oui.
Donc tout ce qu'on a fait avant n'a servi à rien.
En fait, la question de la qualité de l'air, il y a l'Organisation mondiale pour la santé qui prône des mesures, mais après c'est à chaque État de les mettre en place. Faut savoir qu'en France, en fait, on est actuellement en procédure législative avec l'Europe, puisque l'Europe a accusé la France de non-respect de pollution de l'air. Voilà. Donc après, ça dépend des épisodes, ça dépend de l'activité, du type d'industrie qu'il y a dans chaque pays et qui du coup favorise ou pas la pollution de l'air en fonction des conditions météorologiques, des masses d'air, etc. Donc même en France, hein, on a eu des épisodes problématiques. Aujourd'hui, on sait que la pollution de l'air causerait la mort prématurée de 48 000 personnes chaque année. C'est pas des morts directes, mais ça atteint l'organisme et ça l'affaiblit de sorte que on assiste à des morts prématurées à cause de la pollution de l'air. Voilà.
Ouais, il est temps de se réveiller quand même.
Voilà, sachant que c'est aussi problématique pour l'environnement. On a pas mal parlé des phénomènes de pluie acide au début des années 60. Alors on a fait pas mal d'efforts, notamment au niveau des polluants au soufre, et ça a été réduit. Mais on a encore des problèmes par les effets des composés azotés sur les écosystèmes. Et notamment, l'ozone entraîne des pertes de rendement sur les cultures. Voilà.
Et qu'est-ce qu'on fait pour la qualité de l'air ?
Eh ben du coup, il y a plusieurs organisations qui prônent des mesures. Donc en fait, l'OMS fixe des valeurs limites, des objectifs de qualité pour limiter les substances toxiques dans l'environnement et garantir la protection des citoyens. Et après, il y a différents plans qui sont des plans de protection de l'atmosphère qui sont mis en place, notamment en France. Et qui prône, par exemple, plusieurs mesures comme favoriser le développement de toutes les formes de transport et de mobilité propre par des mesures incitatives. Donc, on parlait la dernière fois de mobilité douce, de mobilité durable, de covoiturage. Voilà, c'est des exemples de solutions
qui sont concrets et facile d'accès.
Voilà, exactement. Réguler le flux des véhicules dans les zones particulièrement affectées par la pollution atmosphérique. Donc là, on pense à la région parisienne. On a chaque été maintenant des pics de pollution quand l'air est lourd et quand il n'y a pas de vent, où les polluants se fixent au même endroit. Voilà, c'est ça. On peut aussi réduire les émissions des installations de combustion industrielle et individuelle. Donc là, c'est de l'aménagement, du changement d'installation pour que ce soit plus propre. Donc ça, on y vient tout doucement. Promouvoir fiscalement des véhicules ou des solutions de mobilité plus vertueux en termes de qualité de l'air. Donc là, c'est pareil. Faire évoluer, en fait, nos équipements et nos véhicules pour qu'ils soient moins impactants. Et puis, de manière générale, mener des actions de sensibilisation et de communication pour changer les comportements.
Voilà, et on sait qu'on précisera la date dans la prochaine chronique, mais il y a une conférence aussi sur le climat qui sera faite sur Mende. Je crois que c'est en octobre, mais de toute façon, voilà, on va tout vous détailler. On rajoutera même sur le site en podcast, puisque vous savez que toutes les chroniques, vous pouvez les retrouver sur le podcast de 48fm.org, sur le site internet. Et voilà, vous aurez plus de détails. Je pense que c'est une conférence qui sera très intéressante sur le climat, donc on reviendra forcément sur l'air, la qualité de l'air.
Voilà. Et tout voilà. Ça, c'est en lien.
On fera peut-être, pourquoi pas, une chronique aussi un peu plus spécialisée là-dessus la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Merci Muriel.
Merci Corentin.
On se retrouve la semaine prochaine. À très vite.
À bientôt.